Salut et bienvenue sur la planète Moonglow. On éteint la lumière et on monte le son. C'est parti pour une heure de voyage sonore. Et ce soir, on a invité dans nos studios de la Divergence FM DJ Willy Williams de Penguins Records, pionnier de la scène électro-montpelliéraine, co-auteur de Borealis et dénicheur de galettes rares. Bonsoir William.
Bonsoir.
Mais tout d'abord, je vous rappelle le principe de l'émission. Alors, nous sommes allés promener nos micro-enregistreurs dans la boutique de vinyles des Penguins, autour d'une table de resto également. Et Joy a laissé parler son talent et son imagination pour vous embarquer quelques minutes dans l'univers sonore de notre invité. Rendez-vous rue de Verdun. C'est parti.
Thank you.
Bonsoir William.
Bonsoir.
Alors est-ce que tu reconnais ton univers? Là on est dans la boutique de la rue de Verdun, ça ressemble à
ouais, ça. Ouais, c'est assez ressemblant, ouais, c'est très sympa.
Il y a toutes ces musiques-là qui passent un peu...
À un moment, là, quand je m'entendais, là, quand je disais électro, hardcore et tout ça, c'est quand, en fin de compte, j'étais en train de ranger mes disques par style. Donc là, oui, déjà, j'ai minéré un peu ce qu'il y avait de disponible dans la boutique. Et puis après, en écoutant effectivement les morceaux choisis, c'était des morceaux qu'il a pris en direct. Hein, donc c'était,
voilà, oui, vraiment ce qui passe.
J'étais en plein déballage en plus, donc j'étais en train d'écouter les nouveautés. Donc,
Justement, je voulais savoir, qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu découvres un nouveau disque, que tu enlèves le cellophane là, et que tu découvres un disque
À chaque fois, chaque semaine, on espère trouver, le morceau, pas ultime, mais on va dire le morceau, comme tu dis, qui te fera vibrer. Et également, le morceau qui va te faire vibrer, effectivement.
Alors, t'es attentif à quoi, toi? C'est un nouveau son, une nouvelle.
Nouveau son. Pas forcément, c'est plutôt, moi je serais plutôt dans l'arrangement du morceau, tu vois, aujourd'hui, parce que bon, nouveau son, c'est pas maintenant sur un son, on va dire, ça va être sur le mélange de tout ça, quoi. Mais moi ce que je recherche, c'est surtout, comment te dire, je m'emmène un peu les pinceaux.
Non, ce que tu recherches, c'est ce que t'aimes, mais j'imagine qu'il y a des choses différentes qui doivent te toucher, quelquefois le son, la nouveauté ou l'arrangement, ou le fait que la composition soit achevée.
Au niveau du son, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire passer, mais c'est pas évident, c'est au niveau du son, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les machines qu'il y a, des sons, il y en a sans arrêt, des nouveaux sons. Moi, ce que je rechercherais aujourd'hui, c'est la maturité dans l'arrangement d'un morceau. Parce que, bon, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais avec la multiplication du numérique aujourd'hui, la diffusion, il y a beaucoup plus de morceaux, si tu veux, sur le marché qu'il y a 5 ans, mmh. avec le vinyle. Donc aujourd'hui, il y a énormément de morceaux sur le marché. Et évidemment, il y a énormément aussi de morceaux qui sont pas bien, quoi, ouais. Qui sont pas aboutis, qui sont pas très matures, etc. Et donc, déjà dans le vinyle, c'est un peu déjà, on va dire, l'écrémage de tout ce qu'il y a en digital aujourd'hui. Et donc, les meilleures sorties sont en vinyle. Et après, dans le vinyle, moi, je m'efforce de trouver ce qui va déjà convenir à mes clients. Hein, mm-hmm. Parce que je commence aussi un peu à les connaître, à connaître leur goût, etc. Donc essayer de ça et également pour moi aussi ce qui va me faire vibrer.
Voilà. Alors justement, tes clients, c'est qui aujourd'hui? C'est des DJ, c'est des jeunes, des amateurs, des tuffeurs.
Alors pour te parler vrai, ma clientèle a beaucoup changé parce que ça fait 17 ans que je suis ouvert. Donc en 17 ans, j'ai vu défiler pas mal de générations. On va dire que tout au début, c'était essentiellement les DJ. Mm-hmm. C'était un marché très fermé et c'était vraiment consacré aux passionnés et uniquement aux passionnés. Après, avec l'avènement de soirées comme Borealis, etc., puis des groupes, peut-être on pourra en parler tout à l'heure, mais des groupes qui sont commencés à passer en FM comme les Daft Punk et tout, ça a commencé à se démocratiser. Mm-hmm. Et là, j'ai commencé à avoir un public lambda, on va dire, c'est des gens qui venaient pas forcément, des gens qui voulaient pas être forcément être DJ, mm-hmm. qui voulaient pas être forcément DJ, je veux dire, en soirée, jouer devant du public, mais par contre, il y avait cette nouvelle façon qui est arrivée de jouer de la musique à la maison. Il y a la guitare, la batterie, puis il y avait les platines. Mmh. Voilà, ça c'était tout nouveau, l'avènement des platines à la maison. Et donc du coup, beaucoup de gens se sont lancés DJ à la maison, on va dire, voilà, pour leur propre plaisir ou alors pour faire les soirées entre amis.
Et d'où ça te vient, toi, cet amour du vinyle, cet amour du disque?
Moi, déjà depuis tout petit, j'ai été bercé déjà avec mon père et ma mère qui écoutaient beaucoup de jazz, beaucoup de classiques et beaucoup, je me rappelle, avec une très belle chaîne Hi-Fi à l'époque, qui devait coûter sûrement très cher, mais mon père était un passionné de son, mm-hmm. de bons sons, quoi, mm-hmm. de beaux sons, on va dire. Donc, il avait investi dans du beau matériel et donc ça se lisait avec le vinyle parce que le CD n'existait pas encore. Et donc voilà, j'ai baigné très tôt dans le vinyle. Et après, dès l'âge de 13 ans, 14 ans, avec mon collègue avec qui j'ai monté le magasin, Penguins, donc Stéphane, on a animé des booms, mmh. à l'époque. Et donc, dans les booms, il y avait toujours les gens qui venaient, évidemment, pour s'amuser. Hein, voilà. Et il y avait toujours, fallait toujours quelqu'un pour mettre les disques. Mmh. Et ben voilà, ben, nous, déjà, on était toujours ceux qui voulaient mettre les disques. Et après, on a animé des soirées dans des salles, genre, je sais pas, salles de latte, tu vois, enfin, à latte ou à Palavas, tu vois, dans des salles de spectacle. Et après, on s'est retrouvé en boîte de nuit. Voilà, et là, j'ai commencé à mixer un peu de New Wave et tout ça. J'ai mis quelques disques au Rockstore et tout. Et après, j'ai découvert la techno. Mm-hmm. Et là, une autre façon aussi d'aborder le DJing. Mm-hmm. Donc, c'était une grosse révolution pour moi.
Qu'est-ce qu'il y a de différent entre passer des disques en soirée et être DJ finalement?
C'est-à-dire aujourd'hui ou moi quand j'ai démarré.
À l'époque, quand t'as démarré.
Ah ben quand
déjà.
J'ai démarré, c'était la grosse révolution parce que le DJing, c'était quand même essentiellement, je vais prendre pour exemple, parce que c'est un icône que beaucoup de monde connaît, c'était Philippe Corti. Mm-hmm. Bon voilà, alors donc le DJing, ça se résumait à ça, c'est-à-dire un faiseur de bonne ambiance, un sélectionneur, on va dire, quelqu'un qui met des disques à la queue leu-leu, voilà, sans les mixer, en parlant dans le micro, en essayant de mettre une ambiance. Hein. Et quand la techno est arrivée, ben tout ça, ça a été balayé parce que du coup, le DJ ne parlait plus. Mm-hmm. Le travail était consacré exclusivement à donc, mettre deux disques ensemble pour en faire un troisième. Et donc, il y avait tout un travail de création qui n'existait pas avant. Et là, pour moi, c'était la grosse claque. C'est-à-dire, enfin, on sentait qu'un palier était passé et qu'enfin, un DJ pouvait rivaliser avec... rivaliser entre parenthèses, mais pouvait être considéré du moins comme quelqu'un qui crée de la musique, donc comme un musicien. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était plutôt le DJ de Baloche. Voilà.
Bon, on va parler de tout ça, de cette musique et de cette scène musicale. Electro, breakcore, drum and bass, minimal, dub polaire, intelligence, art tech, noise indus, ambiante, IDM, intelligence dance music, liquid, art step, jungle, new jazz, illibiant, et j'en oublie. Autant de sous-genres très poétiques et éclectiques de ce créneau particulier dont tu t'occupes, dont vous êtes quelques-uns à vous occuper. Là, on vient d'entendre un de tes coups de cœur, un très beau morceau de Chinese Man, c'est
ouais, ça? Ouais, Chinese Man, ouais, c'est un groupe français de hip-hop, trip-hop de Marseille, que j'ai découvert leur premier album en 2005 ou 2006. Et donc là, c'est un extrait de leur deuxième album. Là. Le morceau s'appelle « Iced ». Et je trouve qu'il est super beau. Ça fait un peu penser à ceux qui connaissent du DJ Shadow, je trouve. Mm-hmm. Voilà, je trouve ça super bien, super réussi, super bien produit. Quoi. Voilà, Cocorico.
Bien. et ça rentre dans l'électro ou non, pas vraiment.
Pas vraiment.
C'est une musique actuelle, quoi.
Voilà, mais c'est une des familles, on va dire, de la musique électronique. C'est le trip-hop. A découlé quand même de ça.
De ça, de cette scène-là, ouais. Ce mélange qui a eu à un moment donné. Hein. Et alors, il y a un nombre de genres, de sous-genres, de niches incalculables. Quand on regarde un peu sur les sites internet, les productions...
Bon, on va dire qu'il y a des grandes familles. Après, il y a des sous-genres, mais des fois aussi c'est sous l'effet de la mode, on va dire. Tu vois, c'est des mouvements, enfin des styles qui se créent, mais qui disparaissent au bout d'un an. Voilà, donc pour moi, c'est éphémère. Quoi. Je veux dire, on va pas les retenir. Tu vois.
Non, mais c'est très poétique. Moi, je trouve que
dub. Tu te rappelles de la tectonique.
Mais oui, très bien.
Voilà, ça c'était un truc horrible inventé par les majors. Voilà, tu vois. Mm-hmm. Ça a tenu deux ans.
Ouais, donc, voilà. ça a fait une vague auprès des jeunes ados. Des teenagers.
Exactement, mais on a bien vu d'entrée que c'était le produit était tout marketé, tout fait. Enfin, c'était. Alors, tu sais pourquoi c'était fait? Enfin, entre parenthèses, c'était bon quand même. Je l'ai su parce que tu sais que l'image quand même de la techno a toujours eu du mal à se vendre à cause de les problèmes de stupéfiants liés, tu sais. Enfin, donc voilà, toujours l'éternel problème. Et donc, difficulté à la vendre la techno. Et puis là, le pain béni avec la tectonique, nos jeunes dansent et sont beaux et tu vois.
Ouais, ouais. C'était le bon disco quand même, des années 2000 en fait. Hein.
C'est bon quand même, mais ça n'a pas marché.
Non, alors, tous ces genres de musique, toutes ces niches, tous ces courants, éditent chacun des labels. Alors moi, j'étais surprise d'apprendre qu'en fait, ce sont des vinyles qui sont édités à très peu d'exemplaires. C'est 200-300 exemplaires à chaque fois.
Ouais. Alors ça dépend les styles.
Ouais.
Aujourd'hui. Bon, après, ça dépend, parce que le marché n'a pas toujours été comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché va très mal. Mm-hmm. Mais quand le marché était florissant, on va dire, quand ça allait bien, tu pouvais, on va dire, un pressage moyen pour un label qui tournait correctement, c'est entre 1000 et 2000 exemplaires.
Comme des CD rock, à peu près.
Voilà.
Hein, c'est à peu près
après,
ça.
Après, des grosses sorties, on pouvait monter à 5000, 10000, et puis alors, quand ça pétait tout, ça 20000, 50000. Hein. Mm-hmm. Bon, ça en indépendant. Ça arrivait. Moi, je sais que par exemple, sur une sortie de disque, mais ça m'est arrivé qu'une fois, j'ai quand même tapé les 25 000. Hein.
Ah ouais?
Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai sorti le truc. Tu sais, c'est comme dans les histoires, les contes de fées. Tu sors le truc et puis ça devient le tube planétaire. Quoi. Voilà. Alors, moi, c'était dans de l'art techno et c'était un artiste de Montpellier.
C'était qui?
C'était Wazzle Buster et le morceau s'appelait. La jeunesse emmerde le Front National. Enfin, tu vois, ils avaient repris un sample des Bérurés Noirs, tu vois, de l'époque. Ils en avaient fait une version art techno. Mm-hmm. Ça avait tellement cartonné, je te dis que voilà, on en a fait plus de 25 000, j'en vendais au Japon, j'en vendais. C'est un truc de fou.
Et ça n'a pas suffi à faire démarrer une carrière, entre guillemets.
Pour lui, carrément. Ouais. Carrément, lui aujourd'hui, il joue
sur toutes les scènes,
sur toute la planète surtout. Mm-hmm. C'est l'artiste art techno qui se vend le plus.
D'accord.
Voilà, qui tourne le plus à l'étranger, en France, et c'est lui qui se vend le plus aujourd'hui. Mais c'est grâce à ça. Hein. Mm-hmm. C'est grâce à ce disque.
À ce disque-là.
Bon, évidemment, à son talent aussi, puisque derrière, après, il a su l'entretenir.
Il a su continuer.
Mais ça a été quand même une porte incroyable, quoi, pour lui.
Et donc, en fait, il doit y avoir une foultitude de petits labels, de petites éditions. Alors, on parlera de ton label un peu plus tard. Mais en fait, en France et en Europe et un peu partout dans le monde, il y a plein de petits labels. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont là, qui ont envie tout simplement de faire connaître leur musique et qui auto-éditent leur musique.
C'est un peu la force aussi de la musique électro, c'est que... pas besoin forcément de passer par des gros studios, des grosses majors. Donc tu peux t'autoproduire toi-même, il suffit que tu aies le matériel adéquat, donc un synthé, un bon ordinateur, etc. Ça, c'est pour une config minimale, hein, mais avec ça, déjà, tu peux commencer un peu à travailler. Mm-hmm. Et derrière, ben oui, avoir quelques notions de production, mais il faut pas grand chose non plus, voilà. Après, il faut trouver, le plus dur c'est de trouver une distribution derrière, quelqu'un qui va t'accepter en écoutant tes produits, te dire bon ok, je vais prendre le risque de te les distribuer, voilà, c'est le plus dur. Mais aujourd'hui encore, avec la révolution du numérique, tout est basculé, enfin tout est complètement changé là.
Alors je voulais justement en parler de cette révolution du numérique. Ça, j'imagine, bouleversé et la création et le marché du disque. Oui. Et pour toi, est-ce que c'est négatif totalement, cette arrivée du numérique, ou est-ce que
oui et non, parce que non, parce que je peux rien y faire. C'est comme ça, c'est le futur, hein. Ça va être le futur, donc ça, pour ça, je peux rien y faire. Par contre, ce qui me gêne, moi, dans l'arrivée du numérique, c'est que sous prétexte que le MP3, c'est un format qui est pratique, léger, etc., on en a fait une norme. Mmh. Et là, ça me dérange fortement, parce qu'aujourd'hui, la norme, c'est vraiment le MP3. Vous avez sur les baladeurs, partout, on utilise du MP3. Dans les soirées, alors là c'est le drame pour moi, c'est on utilise du MP3. Mmh. Bon, il faut savoir que quand même la qualité du son du MP3 est peut-être la plus mauvaise qu'il y a depuis 20 ans ou 30 ans dans le traitement du son, quoi. C'est une régression totale. Mmh. Ça m'énerve, moi, mais je peux comprendre aussi que les gens, ça leur passe par-dessus la tête. Pourquoi ? Parce que moi, je fais partie d'une niche, comme quelques passionnés, voilà, où le son, on le vit tous les jours, c'est notre passion, etc. Je peux comprendre pour des gens que la musique, c'est pas leur dada de tous les jours, ils ont un boulot à côté, enfin voilà, ils font, hein. Et que pour eux, ça se limite à sortir en discothèque le samedi soir, effectivement, pour eux, ils voient pas la différence. Mmh. Mais moi, je le vois réellement au niveau de la qualité. Bah, c'est clair qu'on y a perdu. Alors même si, évidemment, le niveau d'encodage du MP3 d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 10 ans. On s'est considérablement amélioré. Mais enfin, ça reste quand même en dessous d'une qualité vinyle. Ça, je veux dire, je mets n'importe qui à défi de me dire qu'un MP3 sonne mieux, quoi. Je veux dire,
il n'y a pas le grain.
Il n'y a pas le grain. Voilà, exactement. Enfin, bon, voilà. Alors après, c'est un choix. Donc, effectivement. Et donc, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que comme c'est devenu la norme, aujourd'hui tout le monde s'est tourné vers énormément, et surtout la nouvelle génération qui, moi, quand même, il y a un certain temps, me permettait de faire vivre le magasin continuellement. Aujourd'hui, on se pose des questions, parce qu'on voit que la nouvelle génération, elle est plus là. Mmh. Elle vient plus. Elle achète la musique quand elle achète, parce que ça aussi, c'est encore un autre problème. Le téléchargement illicite, et voilà. Et quand elle achète la musique, elle achète via Internet. Mmh.
Oh,
Alors, pas besoin de le dire, William, toi, je crois que t'es vraiment un passionné. T'es tombé dans cette musique électro-techno dans les années 90.
Ouais.
Et puis, à les années 93, et là, c'était la première Borealis. Alors, je crois que tous les Montpelliérains s'en souviennent. Quoique la première, je crois, était à Pézenas.
La première était à Pézenas, ouais.
Après, il y a eu Nîmes. Et puis, Montpellier, 20 000 personnes, quand même.
25 000, ouais.
25 000.
25 000 personnes, ouais. Ouais, ouais. Ah ben c'est une longue et belle histoire, Borealis. Hein.
C'est une histoire collective, non, au départ.
Ah, c'est complètement. C'est parti d'une association, tribu de potes. Hein, voilà, on se connaissait du collège, lycée. On était dans le rock, new wave et tout ça avant. On se connaissait de là. Et bon, on a fait. J'ai vite passé, mais on a fait une rave par surprise, on va dire. On s'y attendait pas, on nous a ramené là-bas, c'était une rave qui était sur Cannes, et c'était le choc, hein, voilà, la révélation. Du coup, je me rappelle quand on est rentré sur Montpellier, on s'est dit, putain, mais faut qu'on fasse connaître cette musique et tout ça, c'est un truc de fou, tout ça, l'ambiance de la soirée, tu vois. Et après, suite à ça, on a monté une association, on a commencé à travailler sur une radio associative de Montpellier. Et grâce à cette radio associative, on a rencontré quelqu'un qui nous a fait faire notre première rave, la Noro Rave, donc on avait organisé notre première soirée sur Montpellier, où on avait fait 1000 personnes, première rave, hein, hors club de Montpellier.
Pas mal.
Donc ça, si tu parles de ça, c'était 92. Et suite à ça, on a eu un peu plus d'ambition, on s'est dit, oh, faudrait qu'on fasse un plus gros événement, genre comme ils font les Anglais, quoi. Bon, tout naïf qu'on était à l'époque. Et on est allé voir une discothèque qui était un peu en péril, on va dire, sur Pézenas, avec une super infrastructure, mais bon, voilà, qui manquait cruellement de monde, ça marchait pas du tout, le patron était aux abois, et nous, on est arrivé, nous on dit, écoutez, peut-être qu'on fait pas de miracle, mais en tout cas, on peut essayer de vous faire une soirée que vous aurez jamais vue comme avant, ça va complètement vous changer, vous allez voir, tout ça. Donc, le mec, il nous a fait confiance, et donc, on a organisé donc la première Borealis, et on avait fait 2500 personnes, hein, c'était une première. Mmh. Et puis surtout, une ambiance exceptionnelle, quoi. Enfin, sans jeter de fleurs, c'était vraiment génial, avec un after aussi sur la plage qui était vraiment mémorable, quoi. Enfin, pour tous ceux qui étaient, en tout cas.
Et ça a duré quelques années quand même. Hein.
Alors, ça, c'était. Alors, l'événement, on va dire, était lancé, ça avait mordu. Et suite à ça, il y a un producteur de rock. La société de production s'appelait Tutto Va Bene, qui était venu nous voir. Donc nous, on avait déjà entre-temps monté le magasin. Et donc ce producteur est venu nous voir et il nous a dit, voilà, ce que vous avez fait, je suis venu vous voir à Pézenas, et c'est vrai que c'est complètement nouveau, c'est frais ce que vous faites et tout. Et il a dit, écoutez, moi, je peux vous avoir un endroit unique que je pense que vous, par vous-même, vous n'aurez jamais, c'est les arènes de Nîmes.
Oh, génial.
Alors, est-ce que ça vous dit de faire une soirée avec moi dans les arènes de Nîmes? Vous vous occupez de tout l'artistique, en gros, puis moi, je m'occupe de toute la production. Nous, on avait 21 ans, et quoi, ouais, oh, incroyable, et tout, oui, il faut foncer et tout. Voilà, et donc du coup, Borealis 94, donc la deuxième édition, où là, on avait fait 6 ou 7 000 personnes, donc ça y est, ça commençait vraiment, le bébé commençait à grossir, et pareil, un retour public exceptionnel, un bouche à oreille qui commençait à être grandissant, ça commençait à prendre dans toute la France, ça commençait à être l'événement qu'il fallait pas louper, quoi. Donc, suite à ça, on avait organisé l'événement de 95. Et là, le problème de 95, la fête a tellement été réussie qu'on a été débordé de monde. Et on a été obligé de refuser 2000 personnes. Donc les arènes étaient à complet, on était à 12 000, plus 2000 personnes dehors refusées. Le problème que des 2000 personnes à l'époque avaient été refusées, ça avait créé quelques heures dehors. Donc du coup, la ville n'avait pas apprécié et nous avait retiré les autorisations pour l'année d'après. De toute façon, nous, on avait vu nos limites. On s'est dit, de toute façon, on ne pourra pas faire plus de monde dans les arènes, même si l'endroit est magnifique. Il faut qu'on parte. Et là, évidemment, on est allé voir notre empereur de la région, c'est-à-dire Georges Frêche, et qui, a lui, évidemment, a été séduit par le concept, parce qu'évidemment, la préfecture n'en voulait pas.
J'imagine.
Donc lui, évidemment, ça lui a plu. Comme il a vu que la préfecture, ça lui plaisait pas, qu'elle n'en voulait pas, ben lui, il a dit, mais si, vous allez le faire. Pour emmerder la préfecture. Mmh. Et donc, du coup, il nous a autorisé à avoir Gramont en 1997. Et là on a fait 25 000 personnes. Là, ouais, c'était énorme. Avec un Laurent Garnier qui a fini le matin, avec le finish de Laurent Garnier qui est exceptionnel. Enfin bon, les Daft Punk qui avaient joué, les Chemical Brothers. Tout ça sur la même scène. Hein. Laurent Garnier en live, Laurent Garnier en DJ.
Grosse affiche.
Je sais pas, j'avais tellement, je ne me rappelle plus, il y avait tellement d'artistes.
Donc on va voir dans quelques instants quid de la scène actuelle. Avant, je te propose d'écouter un deuxième petit collage sonore de Joy.
Rock. Non, c'est toujours pareil. Moins de gens dans les soirées. Il y a moins de grosses têtes d'affiches qui viennent. World Beat. Pour des soucis d'économie, on gratte.
Jazz. Ces gens-là ne travaillent pas ensemble.
Moutarde ?
Merci, non, c'est pas moi.
Urban.
C'est pas trop la musique super fashion, hein, la drum and bass et tout ça. Hein.
Sports.
On va en parler tout le temps, mais il y a le facteur crise.
Country.
Tu vois, faire un pas de 2 euros, quoi.
Big band.
Tu peux pas faire venir de gros artistes. Donc culturellement.
Emergency.
Bah oui. C'est normal parce que.
Commercial nostalgia.
Ah oui, elle est là. Alors après, est-ce que c'est elle qui va nous faire des soirées plus tard et tout? Là-dessus, c'est encore un autre sujet de discussion. Hein.
Comedy animation.
Et c'est la même dans les discothèques. Alors on le voit au niveau des bars.
Sci-fi.
Ah, envie d'être DJ, faire les beaux, ça n'est pas de problème. Hein. Ah, ça.
Nature Cosmos.
C'est normal, on s'identifie à David Guetta qu'on a vu à la télé, avec les belles lunettes de soleil.
Body Heat.
Attention, ça attaque, ça commence à 12 ans, c'est la bonne cible là.
70s Disco.
Bon, ce qui fait chier aussi, c'est que on parlait de Montpellier, mais c'est pas que Montpellier. Hein.
Americana.
Soi-disant pour 12 ans sonore. Mais là, c'est carrément, ils sont bien organisés avec avocat et tout.
Dixieland.
Donc moi je privilégie ça. Les clubs c'est fini.
Motivational.
Je veux pas faire de l'antijeunisme hein, mais
Ballroom.
Électro.
Ah ouais.
Hardcore et tout, ça va très bien.
Ça marche.
Très très bien. La clientèle se déplace, voilà. Ouais.
Blues.
Bling 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 bling
bling bling.
Bling bling bling
bling.
Children.
Il y a beaucoup de niches, normalement, à droite à gauche, éparpillées.
Drama.
Et finalement, tu réalises qu'il y a plein de niches, par exemple dans la drum and bass, il y a plein de niches, quoi, dans.
Epic themes.
Et du coup, eh ben, ça fait plein de trucs éparpillés, quoi.
Fantasy.
C'était too much, hein. Enfin, moi, pour moi, ça a été beaucoup, hein, beaucoup encaissé.
High tech.
Donc, culturellement, ben, ça en baisse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a moins de nouveautés, il y a moins de découvertes, il y a moins de. Et ça, c'est pareil depuis 2 ans. C'est pour ça que tu as dit, on a l'impression qu'on trouve toujours les mêmes. Bah oui. Je trouve qu'on a perdu, toute une dynamique qu'il y avait sur Montpellier. Et c'est la même dans les discothèques.
Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose.
She always stood in the back of the line, a smile beneath her nose. Her favorite number was 20, and every single day, if you ask her what she had for breakfast, this is what she'd say. Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds and a tangerine, a side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Cynthia wore the prettiest dress with different color socks. Sometimes I wonder if the mates were in her lunchbox. Me and Lucy opened it when Cynthia won the round. Lucy cried, almost died. You know what we found.
Starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, and a side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you'd understand. Starfish and coffee, maple syrup and jam. Oh,
just like the one she draws on every wall, in every school. But it's alright, it's for worthy cause. Gonson, I keep saying starfish and coffee, maple syrup and jam, butterscotch clouds, tangerine, side on a ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Starfish and coffee, syrup and jam.
On a entendu avec nos micro-baladeurs quelques bribes de conversation qu'on avait chopées comme ça autour d'une table de restaurant. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en est un petit peu de la scène et du mouvement ici, dans la région déjà, peut-être en France aussi, mais au moins dans la région. Est-ce que c'est moins vivant qu'il y a quelques années? Pourquoi? Est-ce que ces gros rassemblements, comme ont pu l'être les boréalistes, existent encore? Enfin, est-ce que c'est toujours vivace et vivant tout ça?
Aujourd'hui, il y a une scène encore vivante à Montpellier, Dieu merci. Hein. Il y a encore une scène, mais c'est vrai que cette scène, moi, je trouve qu'elle s'est réduite. Voilà, donc je pense qu'il y a moins de monde qu'avant qui sort. Mm-hmm. On le voit dans la fréquentation des discothèques électro. On voit quand même qu'il y a déjà beaucoup moins de discothèques qu'il y a quelques années. Mm-hmm. Aujourd'hui, ça se partage entre la Villa Rouge, la Dune. Voilà, ils sont deux, trois discothèques. Alors que bon, il y a encore 2 ans, 3 ans, on compte au moins 6 ou 7 discothèques qui programmaient de l'électro. Aujourd'hui, voilà, donc plus que 2, 3. Il y a une salle comme la TAF qui en programme de temps en temps. Mais ça reste quand même voilà, dans un cadre exceptionnel. Donc, on va dire qu'il y a toujours des gens qui sortent et qui écoutent cette musique, mais on va dire que ça a changé. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est... Enfin, alors après, ce n'est que mon avis, hein, attention, hein, ce n'est que mon avis. Mais bon, voilà, c'est aussi mon expérience de ce que j'ai vu depuis le début jusqu'à maintenant. Je trouve qu'au début, on s'intéressait aux fondamentaux, c'est-à-dire à la musique. Quand on sortait dans les soirées, on ne regardait pas trop... Le look des gens, c'était vraiment secondaire, on s'en foutait quoi. L'important c'était d'aller voir un DJ et c'était un peu le leitmotiv commun. Bon, pas que le DJ, mais également aussi bon, l'environnement, la fête, voilà. On privilégiait beaucoup aussi les décos, etc. Bon, c'était des facteurs importants des soirées. Et j'ai remarqué qu'au cours des années, je trouve que depuis le début des années 2000, il y a eu un changement de génération. Et cette nouvelle génération est arrivée, donc c'est tout un peu la génération Facebook et tout ça. Et c'est arrivé avec un besoin plus de reconnaissance et de. Alors peut-être une société aujourd'hui qui est plus dure, donc peut-être un besoin d'être présent et de dire j'existe. Et donc du coup, on a commencé à coller à la, à, au mouvement électro des artistes qui commençaient à afficher des marques, etc. Alors qu'avant, ça n'existait absolument pas. En fin de compte, on a commencé à starifier le DJ, alors qu'avant, le DJ était une star, mais restait quand même encore dans l'underground, on va dire. Voilà.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez monté un label pour justement faire émerger des artistes dans lesquels vous croyez, qui sont peut-être loin des gros circuits
Alors moi, non, j'ai pas attendu. En fin de compte, ce qui allait arriver, on l'a senti arriver parce que ce qui s'est passé avec le rock, ce qui s'est passé avec plein de mouvements. Donc, à partir d'un moment, c'est repris par les majors, etc. On le formate et puis après, on essaie de le vendre au mieux. Bon, mais voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec beaucoup de mouvements musicaux. Donc, la techno n'allait pas y échapper. Enfin, la house music en particulier n'allait pas y échapper. Alors, donc, nous, dans des démarches déjà de promouvoir des artistes, date de bien avant. Hein. C'est-à-dire, on a commencé notre premier label, date de 1995. Ah, voilà. Oui. Donc, voilà, nos premiers disques datent de là. Tu vois, et donc, c'était vraiment. Au départ, c'était pour se promouvoir nous et également pour promouvoir des artistes de la région. Voilà, pour mettre en avant le côté sud de la France.
Et vous continuez.
Là-dessus, nous étions très fiers aussi au début, parce que ça aussi, comme il y a des rivalités dans le foot, il y avait des rivalités à l'époque entre le nord et le sud, donc la scène parisienne. Qui était, c'est vrai, au départ, qui a commencé à programmer de l'électro avant le sud de la France. Et quand, du coup, quand le sud de la France, nous, on a commencé à programmer de l'électro et à faire des soirées, des grosses soirées qui commençaient à les chatouiller sur Paris, voire même à faire déplacer les Parisiens dans le sud de la France, bah, du coup, il y avait une espèce de concurrence qui s'était mise en place, quoi, à l'époque. Une concurrence saine, hein, évidemment. Mmh.
Alors, on a parlé de ta passion du disque, de ce nombre d'années que tu tiens cette boutique des Penguins Records. Mais c'est pas si facile que ça, c'est un peu la crise, hein, tu nous racontais. Je crois que tu m'as donné des chiffres que, en fait, ce genre de magasins sont de plus en plus rares. Hein. Vous seriez plus qu'une vingtaine en France, en fait, hein, de boutiques spécialisées ça, alors qu'il y en avait 130 il y a 4 ans.
Ouais.
Qu'à l'âge d'or de l'électro à Montpellier, il y avait 7 magasins, vous êtes plus combien ? Vous êtes 2 ?
Non, je suis tout seul.
T'es tout seul maintenant.
Je suis tout seul.
Alors, est-ce qu'il y aurait des solutions de politique culturelle, locale ou nationale qui pourraient aider ? Je sais pas moi, des aides à la création de disques, des aides à la distribution, des... vous auriez besoin concrètement ?
Ce qu'il y a besoin là, ça serait vraiment une grosse remise en question de tout le marché, quoi. Je veux dire, enfin, je vais pousser plus loin parce que moi, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est l'attentisme qu'il y a eu des maisons de disques depuis les années 2000, depuis l'arrivée d'Internet, et les maisons de disques qui n'ont strictement rien fait contre le piratage. Enfin, aujourd'hui, on a toute une génération qui considère que la musique c'est gratuit, que ça se télécharge et que c'est normal. Alors évidemment, moi je vais pas taper sur cette génération, les pauvres eux sont pour rien quelque part, mais enfin quand même il faudrait quand même reprendre les choses à la base et réexpliquer qu'il y a tout un système économique qui est en place, qui pour l'instant est complètement mis en péril, parce que si on n'achète plus la musique, ben un jour des artistes ne pourront pas être rémunérés, c'est aussi simple que ça. Alors ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le marché de la musique en général, c'est que les artistes gagnent de moins en moins d'argent avec les ventes de disques, parce que le support physique s'effondre, mais le support numérique ne prend pas la relève. Ça ne compense que par 10% par rapport aux achats. Alors, c'est-à-dire que il y a énormément de piratage, voilà, tout est dit. Donc les artistes, pour gagner leur vie, ils sont obligés d'aller faire de la scène. Donc ça, c'est bien pour le public. Le public est content. On va se dire, super, on va voir nos artistes préférés plus souvent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus les tuer en les mettant sur la scène non-stop. Donc là-dessus, il va falloir réfléchir à un problème économique général. Je pense qu'il va falloir un problème de rééducation des gens en leur disant que non, la musique, ce n'est pas gratos. Ou alors, ça va finir, et moi, à mon avis, c'est comme ça que ça va finir, que c'est Coca-Cola qui va payer la musique dans pas longtemps. C'est-à-dire qu'on va aller sur des sites marchands où il y aura des téléchargements gratuits, mais il faudra se taper de la pub, et la pub ce sera Coca, etc. Et ça, c'est déjà, ça commence à se mettre en place aux États-Unis. Il y a des grosses boîtes de prod qui commencent à vouloir financer les concerts de Madonna, etc. C'est tout ça pour que derrière, Madonna sorte ses titres en exclusivité sur ses plateformes, et ça sera payé par de la pub. Voilà.
Et là, il n'y a pas des mesures politiques à prendre concrètement?
Oui, mais bien sûr. Alors, notre gouvernement essaye avec Adopi, etc. Alors parce que le problème de cette loi, c'est que dans les intentions, moi je peux comprendre l'intention est bien, c'est-à-dire on se met du côté des artistes et on essaie de défendre la propriété intellectuelle, mais en même temps on sait très bien que techniquement déjà c'est caduque, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui s'y connaît un petit peu, et les personnes qui téléchargent s'y connaissent un petit peu, ce ne sont pas des gens nés de la dernière pluie, ben, ils trouveront toujours une parade pour contourner Adopi. Donc bon voilà, je veux dire, pour moi le problème, enfin je veux pas être pessimiste, mais je pense que les carottes sont cuites, c'est-à-dire qu'on aurait dû s'occuper du problème il y a quelques années. Là aujourd'hui, comment réexpliquer à toute une génération que ce qu'on fait là c'est pas bien? Alors il y en a qui vont me dire non mais bon, c'est une évolution, si la musique devient gratuite c'est bien aussi, on trouvera d'autres moyens de compenser. Oui, mais alors lesquels? Moi je veux bien, moi je suis prêt, j'écoute tout, hein. Lesquels? Voilà, lesquels? La licence globale, ils en veulent pas. Enfin, toutes les propositions qui ont été posées jusqu'à maintenant, tout est refusé. Alors c'est voilà. Donc il y a aucune entente entre les pays, parce que Internet, là-dessus où c'est les majors, ils n'ont pas compris. Internet, c'est mondial. Mm-hmm. On s'échange un fichier de Chine en 2 secondes, on l'a en France. Donc c'est des trucs qui c'est mondial. Ça les dépasse. Et là-dessus, ils n'arrivent pas tous à se mettre d'accord pour faire une loi commune qu'on appliquera dans tous les pays avec toutes les législations communes à tous les pays pour qu'enfin ces lois soient appliquées. Mmh. Voilà. Et ça, tant qu'on ne se mettra pas d'accord là-dessus, eh ben, le piratage continuera. Et voilà. Et puis, les ressources.
Là, effectivement, on trouve d'autres solutions que l'interdiction pure et simple de piratage, parce qu'effectivement, il y a quand même toute une génération qui n'a pas du tout été éduquée et qu'on ne reformatera pas. À ça, donc il y a peut-être d'autres solutions alternatives encore à trouver et on espère que...
Enfin, moi je suis quand même super inquiet pour le marché du disque, hein, qui va très très mal quand même. Il faut savoir que c'est 15% par an depuis 2001, quoi. Donc ça fait quand même une érosion qui est énorme, hein. Il y a énormément de gens sur le carreau et toute une industrie, une économie à remonter. Le temps que ça se refasse, ça va mettre quand même beaucoup d'années, hein. Ça va être très très long et malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, la pub qui est derrière, j'ai peur qu'on aille droit vers ça, quoi.
Mais tant qu'on aura des purs et durs, ça continuera.
Lived in a great green forest, a woodman and his wooden wife, and a merry little son called Tom Wooden Thumb.
Is that right?
No. Yes, Tom Wooden Thumb was his name. Big wooden fella, no bigger than a marble. No bigger, in fact, than a piece of dust on his father's hat. His mother would cook him meals. He'd get 2, maybe 3 green peas. He'd sit down on a potato using a sixpence for his table and a huge grey wooden wolf's head for his plate. One day, he had a wonderful plan. "I may not be big," said Tom, "but if Mother would lift me up and put me into a horse's ear, I'd be able to grow to the size of a giant and put the great green forest in a matchbox using my special shoes and a wooden pea." "Come along, Mother," said Tom. "I'm not frightened." And he went off singing his own special little song.
The microscopic man can do all the things the microman can. I'm a grain of rice, a grain of sand. Peep in your ear when you're asleep. Crawl under your fingernail for the secrets you keep. Swimming in a raindrop, living in a thimble. Small. swimming in a raindrop, living in a thimble.
Alors, achetez des platines et des vinyles, sortez dans les soirées, les clubs, les free parties, allez kiffer avec les DJ pour faire danser vos pieds et ouvrir les frontières de vos cerveaux, plongez dans l'exploration du son et partagez-le avec vos amis. Voilà, moi, c'est ce que j'avais envie de vous dire, mais je vais laisser le mot de la fin à William.
Oui, écoute, t'as bien résumé. En ces temps durs, venez un peu tout oublier dans les soirées, venez faire la fête. C'est vrai que c'est un bon exécutoire, quoi. Et également, mot concernant, privilégier la qualité, privilégier le vinyle, quoi. On est dans une société où on nous inflige tellement de trucs moyens, pas bons. Regarder la télé, les programmes, certains programmes TV, les TV réalités, etc. On nous fait bouffer de la merde tout le temps. Là, on a l'occasion de privilégier un petit peu la qualité. Donc, un joli objet, une belle pochette, du bon son dedans. Voilà, venez acheter du vinyle et en plus, vous faites vivre des gens.
Ouais, alors ce soir, on a écouté Entre les oreilles, Chinese Man, c'était le coup de cœur des Penguins. Typer, Prince, Dolly sur le label de Brooklyn Beats. Takeshi Muto sur le label Schématique et Weavis Thunder. Et puis c'était avec William des Penguins Records, avec Manu Plaza la technique et Joy au collage sonore. Je voulais faire une spéciale dédicace à Odile de Tahiti qui nous écoute. Et oui, je lui lance une poignée de riz couleur d'avenir. Voilà, Moonglow, c'est fini. Moonglow, ça veut dire le scintillement de la lune. Alors soyez heureux et à bientôt.
Bonsoir.